dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Élégant, cheveux blancs, costume gris. Calpino lui dit : Je me suis renseigné. Le français me prend des clients et les meilleurs, ceux qui payent cash. Faut faire quelque chose. L'homme lui dit : Tu as raison, mais attention, ce n'est pas un petit malfrat, c'est un qui fréquente la route. Agis comme tu l'entends, mais attention, de traces compris. François s'assoit dans sa voiture, fait livraison, il sort de la ville. Une voiture est derrière lui, qui le suit. Qu'est-ce qu'on veut ? La voiture le dépasse, avant de dépasser, fenêtre ouverte. François reçoit des rafales de mitraillettes. Il a tout juste le temps de se baisser. Il n'a rien eu. Mais il panique. Il a peur. Alors il fonce. Il fait un demi-tour et fonce. Mais la voiture, la dépasse, qui le poursuit, fait demi-tour lui aussi. Elle aussi et fonce. François, affolé, se dit, ils veulent la bagarre, et ben ils l'auront. Il sort de son vide-poche un revolver qu'il a acheté depuis qu'il fait ce travail. La voiture est derrière lui. Il file de plus en plus vite. Et la voiture le suit aussi. Elle le dépasse, roule à ses côtés. Les deux voitures sont côte à côte. François, tout en conduisant, fixe et tire sur la voiture, sur les hommes qui sont dans la voiture. Ils sont deux. Et les hommes tirent aussi sur François, qui se baisse à chaque fois. Le chauffeur cogne la voiture de François. François tire en conduisant. Conduit en zigzag. Les deux voitures font des zigzags, l'une à côté de l'autre. François, en tirant au hasard, une de ses balles blesse le chauffeur au cou. Il s'effondre sur son volant. L'autre ne peut rien faire. Et la voiture roule dans tous les sens. Et tout d'un coup, la voiture rate un virage et tombe. François, qui descend à une vitesse folle, panique. Il essaye de redresser la voiture, mais il n'y arrive pas. Elle a été touchée à plusieurs endroits. L'essence sort des trous. Thank you. il a réussi à arrêter la voiture. Tout juste le temps de sortir de voiture en vitesse, de se coucher sur le bas-côté. Que la voiture a pris feu. François perd connaissance. Trou noir. François voit se réveille, il voit du blanc, une lumière éblouissante au-dessus de lui, puis il voit une belle tête penchée sur lui. C'est un homme, tête ronde, cheveux blonds, costume gris. Il lui demande « Vous allez mieux ?» François lui demande « Où suis-je ?»« Vous êtes à la clinique Santa Monica. Vous vous souvenez de rien ?» François lui dit « Si, je crois. Ma voiture a explosé. » Il lui demande « Et pourquoi ?»« J'ai été attaqué par deux hommes en voiture qui ont voulu me tuer. Ils ont tiré. Sur ma voiture qui a été touchée. J'ai tout juste eu le temps de sortir de voiture avant qu'elle n'explose. Vous avez retrouvé votre mémoire, c'est bien ça. Vous allez pouvoir me dire pourquoi on voulait vous tuer. Et qui était-il? François lui dit, je ne sais pas. L'homme lui dit, voyons monsieur, vous avez dû sûrement faire quelque chose qui a dû leur déplaire. Je suis sûr que vous ne voulez pas nous le dire. Allez parler. Vous ne savez rien? Je suis policier. Il monte sa plaque. Dans votre voiture, il y avait quelque chose qui leur appartenait. Non? Je vais retrouver la voiture de vos agresseurs. Nous savons qui ils sont. Ce sont des gens de la mafia. Il ne faut pas ce genre de choses comme ça pour rien. Si vous en voulez, c'est que vous les gêniez. Et pourquoi? Je ne sais pas, le commissaire lui dit. Eh bien moi, je vais vous le dire. Parce que vous vendiez de la drogue. Et que la vente de la drogue, c'est une chose gardée. Eux, il ne faut pas y toucher. En plus de chercher à vous tuer, la mafia nous a prévenus depuis déjà quelque temps. Votre complice sera arrêté. Et puis, vous aussi, vous êtes en état d'arrestation. Reprenez des forces, monsieur Ducourt. Vous en aurez besoin. Et l'homme disparaît. On se souvient de tout et dit qu'il est perdu cette fois. On va savoir que c'est un dealer, voleur et peut-être même assassin. Il est perdu. Le commissaire donne le dossier à son supérieur qui voit que c'est une affaire où est accusé un Français. Alors il prévient ses supérieurs et donne le dossier. Le supérieur voit que c'est un Français d'origine modeste, louche, qui ne travaille pas et qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Qu'il est en plus d'origine modeste, mais protégé. Alors il décide, c'est de transmettre tout ça à l'ambassade d'Amérique en France pour qu'on en fasse une enquête, savoir ce que l'on peut faire de ce jeune homme. Quelques jours plus tard, François, alors qu'il est à l'hôpital et se repose en France, le ministre de la Justice en France reçoit dans son bureau l'ambassadeur d'Amérique. C'est un homme grand, gros, cheveux gris et courts. Il a une tête ronde, porte un costume gris. Il est assis en face du bureau. Le ministre de la Justice lui dit: vous avez demandé à me voir, je vous écoute, monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur lui dit: nous sommes bien ennuyés. Un de vos concitoyens a été pris dans une affaire de drogue qui s'est terminée par une tuerie. Le ministre lui dit: eh bien, jugez-le, faites ce que vous avez à faire. L'ambassadeur lui répond: c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Cette personne, quoique d'origine très modeste, semble avoir des amis, des appuis très puissants. Et cette personne, c'est un dénommé François Ducourt. Le ministre rougit. Sa fille est rentrée d'Australie. Il ne veut pas qu'elle le revoie ou même pense à lui. Il demande: qu'a-t-il fait exactement? L'ambassadeur lui donne une pochette rouge, assez épaisse. Tout ça? Oui, parce qu'il y a en plus inculpation d'un meurtre. Mais le cadavre n'a pas été retrouvé. Ce jeune homme ne travaille pas, vit entouré d'artistes, de gens bizarres. Le ministre ouvre du bout des doigts la pochette. Il feuillette le dossier. Il sait que ce François est un aventurier et qu'il ne peut qu'apporter que des ennuis. Ferme le dossier et dit: il faut étouffer tout ça. S'il est arrêté, des familles très estimables seraient compromises. On lui demande: nous vous le renvoyons? Non, surtout pas. Gardez-le chez vous un moment, en le surveillant, bien entendu. L'ambassadeur lui demande: sans être indiscret, qu'est-ce que ce jeune homme? Il est intouchable et fait des choses que n'importe quel délinquant fait. Le ministre lui dit: c'est le genre de jeune qui s'introduit dans des familles très bien et sa relation risque de nuire à cette famille. Il a un physique et un caractère, disons, enfant, ce qui plaît beaucoup aux femmes qui ont besoin de materner et de dominer. C'est une espèce de gigolo, si vous voulez, malgré lui, je pense, mais qui a de l'ambition et ne sait pas s'arrêter. Son charme l'a mené loin, jusqu'à Franblanc, vous vous rendez compte? Alors, intouchable. Et là, lui dit: je comprends, nous étouffons cette triste affaire qui risque de nuire aussi à Franblanc. Mais en échange, si vous permettez, nous espérions, c'est que vous nous donniez la permission, c'est d'expulser deux jeunes gens dont je vous ai parlé, Jean Traine et Frédéric Borch. Le ministre lui dit: malheureusement, ils sont eux aussi intouchables. Franblanc, même si Franblanc aimerait s'en débarrasser. L'ambassadeur lui dit: alors, tous les Français qui sont en Amérique et qui font des bêtises, on ne peut pas le toucher? Non, pas tous, mais certains qui sont connus des Franc-Blancs. Oui, l'ambassadeur lui dit: vous savez que les Franc-Blancs chez nous n'ont pas bonne presse. Alors on pourrait passer outre. Le ministre de la Justice lui dit, le ministre de l'Intérieur et moi-même pourrions, et nous, débarrasser de certains de vos concitoyens qui sont chez nous pour espionnage. On lui dit, un petit jeu de rien du tout ne va pas créer une guerre froide entre nos deux pays. Je laisse courir ce jeune homme qui de toute façon ne fait pas grand chose. Qu'est-ce qu'un crime par-ci par-là et quelques larcins à côté de nos deux pays? Si à cause de lui nous sommes en guerre froide, il y aura beaucoup plus de meurtres et tout ça pour rien du tout. Vos Francs-Blancs devraient tout de même faire attention à leurs relations, le ministre dit. S'il n'y avait que... Il rend le dossier et lui dit, disons que l'incident est clos et que ce dossier va aller aux archives et se perdre pour longtemps. L'ambassadeur prend le dossier. Bien sûr, monsieur le ministre. Le ministre se lève, lui tend la main. Au revoir, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Et l'ambassadeur se retire. Le ministre se dit s'il pouvait se faire tuer ce François. Soupire et fait un numéro. Allô? C'est moi, Beauregard. J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement, parce que moi aussi, je suis coincé. J'ai une idée qui pourrait peut-être nous arranger. Tuer et éliminer ce froliquet. J'ai en Amérique des gens qui pourraient faire la chose sans ennui. Surtout qu'ils trafiquent un peu. Alors, bien, vous allez réfléchir. Je ne vois pas pourquoi cette personne vous intéresse. Allez, à bientôt. Et il a raccroché. De l'autre côté de la ville, dans une pièce sombre, meublée en bureau genre 1930, un homme est assis à son bureau. Il est grand, maigre, cheveux blancs, porte un costume noir. Est assis en face de lui, la femme en noir. L'homme lui dit, il est insupportable ce jeune homme. Elle lui dit, oui, hélas, mais nous hésitons à l'éliminer. On ne sait jamais. Tant que les recherches n'ont pas abouti, nous risquons c'est de faire une très grave bévue. Et que faire de l'autre? L'homme lui dit, de toute façon, il ne peut pas y en avoir deux. Donc l'un doit être éliminé. Elle lui dit, souhaitons que ce soit l'autre. Et en attendant, l'homme lui dit, vous parlez de celui qui est jusqu'à présent en place. Nous continuons notre plan. Pour ce qui est de l'autre, tâchons de faire en sorte à ce qu'il ne lui arrive rien. On ne sait jamais. Empêchons-le de faire des bêtises. Elle lui demande, et comment? L'homme lui dit, je crois qu'il serait peut-être bien, c'est de le faire rapatrier. Ce serait plus facile pour le surveiller ici. Tant que nous n'avons pas de résultat, on ne peut pas faire grand-chose. Et lui demande, et la jeune fille? Lui dit, elle ne doit plus le voir. Il faut qu'elle connaisse une autre personne. Parce que si c'est lui que l'on cherche, il ne peut pas se lier avec la famille Beauregard. Le commissaire a reçu l'ordre d'étouffer l'affaire. Il est furieux. Et on lui dit, secret défense, que cela risquerait de créer de graves incidents diplomatiques et économiques. Les francs blancs risquent, c'est d'être froissés, et l'Amérique a besoin des francs blancs pour rénover leur ville, et malheureusement, ils ont le monopole de tant de choses que s'ils coupent les relations avec l'Amérique, l'Amérique est perdue. François est bien soigné en attendant la réponse, on ne sait jamais. Il se remet vite, ce n'est rien ce qu'il a eu, mais on le garde à la clinique, c'est mieux que de le mettre en prison, c'est plus neutre. Un matin, voit entrer dans sa chambre, qui est gardée par la police, le commissaire. François est allongé. Le commissaire s'approche de lui et lui dit
« Dieu, malheureusement pour moi, je suis obligé, c'est de vous relâcher. Vous pouvez remercier vos amis. Je vous demande une chose, c'est de quitter cet état le plus tôt que vous pouvez. Vous êtes libre. Je vous demande, c'est le temps que vous restez ici, c'est de vous faire un peu oublier. »
François lui demande, « Je peux quitter la clinique ?»«
Quand ?»
Le commissaire lui dit,
« Maintenant. Tu guéris alors ?»« Depuis longtemps, monsieur. Mais l'on vous gardait ici pour vous éviter de faire de la prison. »
François quitte l'hôtel, prend un taxi pour rentrer chez lui, c'est-à-dire chez Tony. Un peu inquiet, il retrouve Tony chez lui, dans son salon.
Tony lui dit, « Tu es de retour ?»«
Oui. Tu sais ce qui m'est arrivé ?»«
Oui. Cette course-poursuite et la fusillade. Tu sais, l'Amérique, ce n'est pas la France. L'on ne touche pas à certaines choses. Quelle idée tu as eue ?»
François lui dit tristement, « Ce n'est pas moi. J'étais obligé. Pardonne-moi. On m'a fait chanter. Les gens le savent ?» Denis lui répond,
« Oui, mais on t'en veut pas. La police a fait son enquête. On leur a dit que tu étais un garçon charmant, un peu insouciant. »
François lui dit, « Merci. Je suis navré pour tout ça. »
« Et que vas-tu faire maintenant ?»«
Je crois que la police du coin aimerait, c'est que je quitte les lieux, pour alors que je me fasse oublier. »
Tony est triste, parce qu'il sait qu'il ne le reverra plus, il demande.
« Tu vas t'en aller où ?»«
Je ne sais pas, peut-être à New York. »
À Paris, le Man Noir donne l'ordre que l'on mette sur le compte de François la somme du prix des bijoux, mais que l'on lui remet qu'à New York. François reçoit le message sur Internet. Donc, il doit partir. Il prévient Tony et Eddie, et l'on décide de faire une grande fête avant son départ. Une fête d'adieu. C'est Tony et Eddie qui préparent la chose chez Tony. Beaucoup de personnes sont invitées. Personne n'en veut à François, même pas l'argent qu'il leur doit. La soirée a lieu, François, pour les remercier, fait le joyeux, le fou. Il danse comme un fou, comme il en a l'habitude. Des femmes. Lui disent qu'elles sont tristes de le voir partir. Eddie est triste. François lui fait connaître un Français qui quai de la Fête, un dénommé Gilles Traine, fils de très bonne famille. La mère est très riche. Le père décédé. Gilles,
j'adore, c'est un vrai musée en
est grand, mince, très beau, cheveux châtains qui ondulent, petit nez, etc.
Alors, steak, 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 ah oui là.
Français, François sait que Gilles cherche quelqu'un pour s'occuper de lui. Il lui dit, si tu veux t'occuper d'Eddy, il est très déprimé. C'est un garçon formidable. Viens, je vais te le présenter. Ils vont vers Eddy. François lui dit, Eddy, je te présente Gilles, un ami. Il est très gentil. Et si tu veux, vous serez très bien, très bons amis tous les deux.
Jusqu'à preuve du contraire.
Eddy, triste.
Ça vaut 5 dollars.
Trouve Gilles charmant, mais moins bien que François.
Je le sais.
Gilles rit sous quatre et se dit que si ce PD croit qu'il va pouvoir le toucher, que ça va être sa fête, mon vieux.
Tu peux m'enrouler une à la cow-boy ?
Bien sûr qu'elle a mis des jeans.
Il sourit d'un air bizarre, niais à Eddy, qui est pris par son charme. François se retire et se dit que voilà, en fait, bien de choses de fait.
Marcellus dit que t'es rentré depuis peu d'Amsterdam.
Jeudi.
T'y es resté longtemps ? Je dis que t'es rentré depuis peu d'Amsterdam.
Jeudi.
T'y es resté longtemps ?
Environ 3 ans.
La jambe, le coup de vieille vanne.
Et la fête se continue. Elle se passe bien.
They think they're being modern. That's a tribal dance straight from the Congo.
Yes, astonishing coordination.
We're certainly proud of your son tonight.
Yourself a moment, please.
Miss Conway.
It's terribly important. Demain
matin, François s'est lavé. Habillé. Il est 11h30. Est allé rejoindre Tony dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Il est entré dans la salle à manger. Tony est debout, triste. François lui dit bonjour, il donne un baiser sur la joue, lui dit sois pas triste. Tu sais, je penserai souvent à toi. Tony lui dit moi aussi. Mais nous serons séparés. François lui dit tu garderas un bon souvenir de tout ça? C'est essentiel, non? Oui.
Allez, déjeunons. Mettre à table. Tony fait le service. Tout en mangeant et buvant, Tony lui demande « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» François lui dit « Ne fais pas de soucis. De l'argent m'attend de Paris. Et puis, je vais me lancer dans les affaires. » Pris le petit déjeuner, François dit adieu à Tony devant la voiture qui est près de la maison. Il part avec la voiture que lui a offert Tony. Tony lui dit « Protège-toi bien. Et toi aussi. » Ils s'embrassent et François entre dans la voiture. Il met la voiture en route. Dans la ville, derrière leurs rideaux ou dans leur jardin, des femmes, des jeunes filles, des hommes disent au revoir à ce charmant petit Français. La voiture quitte la ville. Elle file, file. Elle roule sur la route qui longe la mer. Le contrebas de la route, sur les rochers qui plongent dans la mer, allongés sur le dos, les jambes et les bras écartés, la tête sur le côté droit, du sang sur le front, la bouche ouverte et grimaçante, Eddie, le corps d'Eddie. Gilles, dans une chambre d'hôtel, raconte à Frédéric comment il a joué avec Eddie. Il lui dit, sale pédé, qui avait l'outrecuidance de vouloir me toucher, j'ai bien vu. Alors je lui ai fait croire que j'étais d'accord. J'ai amené dans un endroit tranquille. J'ai joué le jeu de la séduction. Et puis tout d'un coup, à coup de pierre, je lui ai donné des coups. Des coups pas trop durs au début. Rien qu'à la fin. Je lui ai donné un coup mortel. Mais avant, je voulais le faire souffrir. Et toi, la fille? Quand est-ce que tu t'en occupes? Il dit, je ne sais pas. Il faut le faire, c'est ton tour. tu es comme nous? Non. Et si tu es comme nous, tu n'es pas une mauviette. Ton frère a raison de faire ce qu'il te fait. Et tu dis, non, surtout pas. Eh bien alors, montre-le, tue la fille. Elle ne tient rien, cette fille. Moi, j'ai jamais hésité. Pour le PD, je n'ai même pas réfléchi. Frédéric lui demande, et l'autre? Je lui dis, l'autre? J'ai pas eu le temps. Mais la prochaine fois, ce sera sa fête à lui aussi. Je croyais qu'il était comme nous. Je ne sais pas. S'il est comme nous, je ne pourrais pas le tuer. Mais autrement, oui. Pendant ce temps, François roule, file le maximum de route. Et après, il prendra l'avion. Arrivé à New York, il connaît déjà la ville. Il a pris un taxi pour aller au centre-ville. La ville lui semble encore plus délabrée que la première fois. Il y a encore des grands espaces. Écrit. Là, c'est grand, c'est à mourir d'ennui, avec de grands immeubles, délabrés, sales et tristes. Demande au chauffeur quel est le plus grand hôtel de la ville. Le chauffeur lui dit que c'est le palace de la paix, franc blanc. Bien, il regarde sur le numéro de téléphone de l'hôtel sur son portable. Et pendant que le taxi roule, François téléphone à l'hôtel. Allô? Dit l'hôtel paix, franc blanc. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur, je m'appelle François Ducourt. Et je viens d'arriver, j'ai pris une chambre. Une chambre? Pour combien de temps, monsieur? Je ne sais pas. Peut-être une semaine ou plus. Une personne? Pour une personne. Une suite. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de place. Bien, monsieur. Je vais vous trouver une suite au 5e étage. Le prix de la nuit. Est-ce que ça vous va, monsieur? Oui, monsieur. Je vous envoie mon compte et j'arrive. Et François envoie par téléphone le numéro de son compte en banque pour que le concierge puisse, avant son arrivée, vérifier si la somme y est. Un quart d'heure plus tard, le taxi arrive. Thank you.
Il s'est arrêté devant l'hôtel Palace. C'est un gratte-ciel tout en vitre. Les drapeaux flottent au vent. De marbre blanc, il va à l'accueil avec le groom qui porte ses valises. Le concierge est un homme dans les 30 ans, grand, mince, blond, habillé d'un costume bleu. Bonjour monsieur, je suis François Ducourt, je vous téléphone pour une suite. Oui monsieur, votre carte. François la lui donne. Il la met sur l'écran. Votre pouce. Il la met sur l'écran. Le concierge demande, vous restez combien de temps chez nous, monsieur? François lui dit, je ne sais pas, peut-être 15 jours. Ou un mois. Bien, monsieur. Il dit au gros, salle 561. Suivez-moi, monsieur. Et François suit le groupe. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Là, le groom va ouvrir la porte de la suite. Grande chambre, il y a deux places, salon, bureau, salle de bain, le tout meublé Louis XV. C'est très clair, avec de grandes baies vitrées. François reste que quelques jours à se reposer. Un soir, alors qu'il revient d'un restaurant où il a dîné, avant d'entrer dans son hôtel, une femme sort d'un taxi. Un fou mouvement et tombe à terre. Elle est grande, mince, blonde, habillée d'un tailleur jaune, très élégante. Elle doit avoir dans les 30 ans. François la relève et lui demande, vous allez bien madame? Je lui dis, mais je crois, je ne sais plus. Elle essaye de marcher, mais sa jambe lui fait mal. François lui demande, vous voulez un médecin? Il lui dit, non, c'est idiot. Donnez-moi un endroit où je puisse m'asseoir un moment. Vous êtes un peu étourdi. François lui dit, mon hôtel? Elle le regarde et lui dit, c'est très bien. François lui donne le bras, la prend à la taille et lui dit, appuyez-vous sur moi, merci. Et il la fait rentrer dans son hôtel. Il dit au groupe, nous allons au salon. Il mène la femme au salon de l'hôtel, le salon pour les visiteurs qui se trouve au rez-de-chaussée et qui fait aussi salon de thé. C'est une grande pièce meublée à l'anglaise avec de grands fauteuils en cuir marron. Il y a aussi des tables rondes avec des chaises. Un autre hôtel va vers eux en accueillant leur demande. Ce qu'ils veulent, François lui dit, Cassène vient de tomber et j'aimerais un endroit où elle puisse se reposer. Le maître d'hôtel, habillé en costume bleu, lui dit, veuillez me suivre, monsieur. Et il le suit. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.